le service protestant. Une émission de la Fédération protestante de France.
Bonjour et bienvenue dans ce service protestant sur France Culture en ce dimanche, un dimanche très particulier pour les chrétiens puisque c'est aujourd'hui le dimanche de Pâques. Il est de tradition de se saluer en ce dimanche de Pâques par « Il est ressuscité, il est vraiment ressuscité ». C'est ce que nous verrons dans un instant avec le pasteur Émile Lazare de l'église adventiste d'Aubervilliers et l'église adventiste de la place d'Italie à Paris. Joyeuse Pâques à vous tous qui êtes à l'écoute de ce service protestant.
Bonjour à vous toutes et tous qui nous écoutez ce dimanche matin. Le sujet du jour sera, comme vous le présumez déjà, la fête de Pâques. Dans le pays orthodoxe, où j'ai vécu la première partie de ma vie, Pâques est la fête par excellence, plus importante et mieux suivie que Noël. Il y a de la joie autour d'elle, mais aussi un sérieux qui m'a souvent frappé. Pendant les 40 jours avant Pâques, beaucoup de gens changent leur comportement. Les églises sont plus fréquentées que d'habitude. Les rayons alimentaires dans les grandes surfaces triplent leurs offres avec des produits végétariens. Chaque dimanche de la période, dans les églises orthodoxes, la liturgie est plus solennelle et pendant la semaine sainte, devient très dramatique. Les visages des croyants sont graves, en attendant de revivre la crucifixion de Jésus, sa mise au tombeau. Dans les villages, le vendredi saint, personne ne travaille et les églises sont prises d'assaut par ceux qui veulent se purifier en confessant leurs péchés aux prêtres. Samedi, un silence étrange règne à la campagne. Même les animaux paraissent être au ralenti. Tout le monde attend le grand événement, la résurrection de Jésus qu'on a mis au tombeau avec une cérémonie triste et lugubre la veille. Et immédiatement après minuit, les foules rassemblées dans les églises reçoivent la nouvelle attendue apportée par le prêtre habillé de ses vêtements les plus riches. « Christ est ressuscité !» Le peuple répond d'une seule voix, « En vérité, il est ressuscité !» Pendant les 40 jours suivants, personne ne se salue avec « Bonjour !» Mais avec cette bonne nouvelle, « Christ est ressuscité !» Et la réponse de l'autre doit être la confirmation. En vérité, il est ressuscité. Quand la liturgie de la résurrection, la plus importante de l'année dans l'orthodoxie, finit, la foule se disperse et chacun tient une bougie allumée dans ses mains. La lumière de la vie retrouvée. Maintenant, le croyant peut retourner à la réalité de chaque jour. Et il le fait de la manière la plus brutale. J'ai toujours été étonné du contraste créé entre la vie d'avant la résurrection et la vie d'après. Dimanche, le repas est riche en viande, en œufs bouillis avec les coques peintes en rouge et doit être bien arrosé avec des boissons alcoolisées. L'abstinence a pris fin. On peut écouter la musique la plus débridée, on se laisse aller à dire des jurons en toute liberté. Une peur populaire très répandue dit que si quelqu'un laisse échapper un seul juron pendant la semaine sainte, il sera maudit toute l'année. Mais la résurrection met fin à ses contraintes et la vie de tous les jours reprend comme avant. L'impression que cela donne est que le carême a été une sorte de parenthèse entre la vie du chrétien et que Jésus est mort et ressuscité pour que nous continuions à vivre sans aucun changement dans la durée. Cette mentalité que l'on montre souvent, sans le dire, tient plutôt de la tradition populaire que de l'Évangile. Elle n'a aucun lien avec la vraie signification de la résurrection de Christ. La Bible nous parle de la résurrection comme d'un événement historique placé dans un contexte très précis. Nom, cadre géographique, témoin oculaire. Remémorer l'histoire d'une manière dramatique nous aide à fixer des repères dans notre esprit. Mais si on en reste seulement à une simple cérémonie du souvenir, notre vie ne sera pas fondamentalement changée. La résurrection doit s'inscrire dans la profondeur de notre caractère, de notre existence. L'apôtre Paul parlait ainsi de l'importance que la résurrection doit prendre dans la vie du chrétien. Je cite de la lettre envoyée aux Romains, chapitre 6, le verset 4. « Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. » Fin citation. La foi dans la résurrection de Christ doit apporter aux croyants un changement radical et pour la vie. Le croyant ressuscite d'une existence marquée par l'esclavage des addictions les plus terribles pour vivre la nouveauté d'un parcours que Dieu prépare chaque jour pour lui. Un parcours défini par celui qui a vaincu la mort. Le chrétien n'est pas un inventeur d'existence, mais un imitateur. La vie nouvelle est dessinée et inspirée par Christ, le seul qui l'a brevetée par sa résurrection. Vers lui, nous nous dirigeons ce matin pour lui demander qu'est-ce qu'il attend de nous, afin de marcher à nouveauté de vie et de ne pas subir l'effondrement post-pascal où le croyant laisse tomber tous les changements réussis pendant 40 jours. Pour découvrir la nouveauté attendue par Jésus, je vous invite à aller ensemble pour quelques instants dans le lieu appelé la Chambre Haute à Jérusalem, jeudi soir, avant l'arrestation du Maître. L'atmosphère est imprégnée d'une tristesse diffuse à cause du visage grave de Jésus. Dans le même temps, jamais les disciples ne se sont sentis si proches de leur mentor spirituel. Le cher Rabbi ouvre son cœur, se montre vulnérable, essaie de le prévenir du cauchemar qui les attend quelques heures plus tard. Un seul d'entre eux comprend le langage mystérieux de Jésus, Judas. Et, ayant peur d'être démasqué, pris de rage, il sort dans la nuit pour réaliser son projet diabolique. Après ce moment mal compris par les convives, Jésus, ému, s'adresse aux disciples avec une tendresse inouïe. Il les appelle « mes petits enfants », technion en grec, un diminutif fort, utilisé pour exprimer à la fois l'amour, la compassion et la douceur pour un enfant. Vous trouvez le mot dans l'évangile de Jean, chapitre 13, le verset 33. Le maître se soucie de leur sort quand il ne sera plus avec eux. Il les prévient de la séparation imminente. Pas à cause de la mort, mais ils se situent déjà dans la pré-résurrection, quand leurs contacts visuels seront sporadiques pour un temps et finiront avec l'ascension de Jésus vers le trône du Père. À partir de ce moment, eux, les disciples doivent construire une nouvelle vie, parcourir une nouvelle route. Pour ça, il faut se préparer à introduire un changement radical, une nouveauté que Jésus tient à souligner par ses paroles. Mes petits enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez, et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais. Je vous le dis aussi maintenant. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. J'ai cité de l'Évangile de Jean, chapitre 13, les versets 34 et 35. La nouveauté est une exhortation. Aimez-vous les uns les autres. Ces paroles sont un testament laissé à tous les croyants qui veulent suivre Jésus. C'est un peu surprenant, pour ne pas dire décevant. Au lieu d'écouter un discours mémorable, comme tant d'autres, les disciples sont chargés avec une seule phrase, présentée comme un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Un commandement nouveau? Pas très sûr. Où est la nouveauté? Parce que le commandement d'aimer l'autre existait déjà très bien formulé dans la Torah. Je cite de Lévitique chapitre 19, le verset 18. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Pourquoi Jésus soutient-il que sa demande pour ses héritiers est inédite? Mais avant de répondre à cette question, je vous propose une courte respiration musicale avec un chant anglais lié à notre sujet. Loving God. Aimer Dieu. Interprété par le groupe Adoramus. Les paroles du chant disent « Aimez Dieu, aimez les uns les autres, faire la musique avec mes amis, aimez Dieu, aimez les uns les autres et l'histoire ne finit jamais. » Ils se sont pressés à la table pour écouter ces paroles, ces projets secrets avant son départ, qui ne sont pas compliqués. Il ne s'agit pas de beaucoup de règles. Tout ce qu'ils ont besoin de savoir, c'est d'aimer Dieu et de s'aimer les uns les autres. Dans la formulation de Jésus, il y a deux accents qui transforment tout et donnent à ce commandement la valeur spirituelle suprême. Premier accent. Dans l'Ancien Testament, l'indication qualitative de l'amour était « comme toi-même ». Aime ton prochain comme toi-même. Cette formulation pose un problème, parce que l'amour que nous avons pour notre personne n'est pas très évident. Certains d'entre nous ont pour eux-mêmes une très mauvaise estime. Souvent, on se voit comme des nuls, des bons à rien. Malheureusement, pour s'en sortir mieux, on projette sur les autres la même image. Et au lieu de leur offrir l'amour, on donne la souffrance. D'autres sont amoureux de leur propre personne à un tel degré qu'ils obligent les autres à se transformer en leurs adorateurs. Et si ces dernières oublient de leur offrir les louanges attendues et de satisfaire leur moindre caprice, malheur à eux. Les tonnerres du Sinaï se déchaînent. Ce type d'amour pour soi-même est obsessif, maladif et tue l'affection. Le drame est qu'on oscille tout au long de notre vie entre ces types d'amour, en empoisonnant les relations avec les autres et implicitement notre existence. Mais Jésus change le terme de comparaison. « Aimez-vous comme je vous ai aimé. » Ce n'est pas l'amour pour moi-même que je dois chercher, connaître et rayonner autour de moi, mais l'amour de Jésus, l'amour parfait. En connaissant cet amour, je suis changé et mon comportement avec l'autre change aussi. Explorer l'amour de Jésus devient ainsi le but suprême de son disciple. Nous ne trouvons pas à nous-mêmes la force de dépasser une condition misérable, comme certains sages d'aujourd'hui disent, mais en regardant vers lui. La nouveauté du commandement se trouve dans le changement du regard, de moi-même vers lui. Cet amour de Jésus touche le sublime le soir où les disciples sont avec lui à table. Jean dit qu'il mit le comble à son amour pour eux. Évangile de Jean, chapitre 13, le verset 1. D'autres traductions reproduisent cette idée avec les paroles suivantes. Il les a aimés jusqu'à l'extrême. Il partage avec ses amis proches la tendresse la plus émouvante, des paroles encourageantes, la compassion devant l'épreuve qu'ils traverseront, la capacité de sentir leur souffrance future, la franchise non blessante, le courage de confronter quelqu'un avec ses faits méprisables en lui offrant des solutions, et surtout, il est prêt à se glorifier par le sacrifice suprême. Cet amour nouveau, de la chambre haute, va changer leur vie, nos vies. La deuxième nouveauté est l'accent que Jésus met sur le partage de l'amour avec le prochain le plus proche, les uns vers les autres. Les disciples sont chargés d'aimer ceux qui sont les plus près d'eux. Et cette chose n'est pas facile, parce que les uns les autres fait référence à Simon, dur comme la pierre, à Jean et Jacques, les impulsifs et inattendus comme le tonnerre, à Nathaniel et Thomas, deux incrédules bourrés de préjugés, à Matthieu, le sulfureux collabo avec les Romains, à l'autre Simon nommé le Zélote qui a fait un stage chez les terroristes, à Philippe le trop écuménique ou à André le timoré qui ne donne pas des réponses aux questions posées, et bien sûr à l'autre Judas qui ne dit jamais rien. Il faut admettre que l'amour mutuel entre de tels caractères est difficile à installer. Juste avant de s'asseoir à la table, ils se sont disputés pour la énième fois sur le sujet qui les préoccupe depuis le début, la hiérarchie dans le royaume messianique. S'aimer les uns les autres dans ces conditions, ce n'est pas évident. Dans le roman « Frères Karamazov » Dostoïevski, mettre dans la bouche de l'abbé Zosima une histoire intéressante. Le moine parle d'un homme plein d'amour pour l'humanité, quelqu'un qui était très généreux, ayant des projets de charité pour des milliers de pauvres gens misérables. Il avait sauvé de la mort des centaines d'affamés. Mais ce philanthrope éprouvait des grandes difficultés à se montrer gentil et attentif avec les personnes les plus proches de lui, sa femme, ses enfants, ses amis. Pour la société, pour l'opinion publique, il était un héros. Quant à ses proches, ils voyaient en lui un personnage odieux, aigri et tyrannique. La conclusion de l'abbé était qu'il est plus facile d'aimer l'humanité que l'homme qui se trouve à côté de soi. Au temps de Jésus, tous les religieux, pharisiens, sadduciens, esséniens, prêchaient l'amour. L'amour pour l'orphelin, l'amour pour la veuve, pour le pauvre. Et il exhortait les gens à faire des dons pour ceux-ci. Mais si dans leur propre milieu se trouvait quelqu'un d'une de ces catégories, ils avaient du mal à lui témoigner de l'affection. On le jugeait plutôt qu'on ne l'aidait. Un jour, Jésus a piqué à vif les pharisiens en montrant leur perversité avec un cas très répandu apparemment. Pour masquer l'avarice et l'irresponsabilité envers leurs parents, certains croyants respectables déclaraient avoir dédié tout leur bien au Seigneur, en ne gardant qu'un statut d'administrateur. Et ils haussaient les épaules quand quelqu'un, même leur papa et maman, demandaient de l'aide en disant « J'aurais bien quelque chose à te donner pour t'aider. Malheureusement, c'est corban, c'est-à-dire une offrande pour Dieu. » L'Évangile de Marc, chapitre 7, verset 11. Sacrée hypocrisie. Combien de fois n'avons-nous pas été émus par les souffrances des gens qui se trouvent loin? Les affamés du tiers-monde, les pauvres victimes du changement climatique, les migrants de la Méditerranée et beaucoup d'autres. C'est une compassion légitime et bénéfique pour combattre l'installation de l'indifférence en nous. Mais permettez-moi de m'interroger. Qu'est-ce que nous avons fait avec celles et ceux de notre proximité? Combien de fois les avons-nous mal jugés? Combien de fois avons-nous montré notre intolérance, notre haine, notre mépris? Voilà le drame de notre amour. Le commandement de Jésus change le territoire d'amour. Dieu n'attend pas de nous un amour démagogique, humaniste, où tout le monde aime l'humanité et prêche des valeurs humanistes. Il veut que le sujet de notre amour soit la personne qui se trouve le plus souvent devant nous, notre vis-à-vis, ma femme, mon mari, mes enfants, mes parents, mes collègues de travail ou d'école, mes compagnons de l'église. C'est ici qu'on doit prouver et vivre l'amour. Et c'est ici qu'on a des problèmes. Voilà la nouveauté du commandement. Apporter l'amour dans la proximité la plus proche. Il faut reconnaître, le testament de Jésus est beau. Il nous ouvre la voie vers une nouveauté de la vie. En le prenant au sérieux, on peut s'approprier les bénéfices de la résurrection. Mais il y a un problème avec les testaments dans notre monde. Les gens se montrent respectueux devant la dernière volonté d'un mort. On apprécie sa sagesse, son dernier éclair de génie. Mais en réalité, chacun n'en fait qu'à sa tête après l'enterrement. Prenez comme exemple le testament du roi le plus grand de France, Louis XIV. Pendant son règne, rares ont été ceux qui ont remis en question ses choix. Oser contredire le monarque pouvait s'avérer dangereux. Mais une fois morte, les ministres, et le Parlement de Paris ont cassé son testament et ses souhaits ont été totalement oubliés. Le testament de Jésus peut-il avoir le même sort, tomber dans l'oubli? C'est peut-être possible. Cependant, il y a une grande différence avec toutes les autres volontés ultimes. Le testament de Jésus n'est pas celui d'un mort, mais d'un ressuscité. Il est toujours vivant. Il garantit la réalisation de la nouveauté voulue. Ses paroles ne clôturent pas une mission, mais ouvrent une nouvelle voie. La voie de la résurrection, de la renaissance de ses héritiers. Le nouveau commandement est validé et devient vital pour le croyant qui veut vivre après le jour de la résurrection. La plus forte manière de témoigner de notre foi que Jésus a vaincu la mort se trouve dans l'amour nouveau voulu par lui. Aujourd'hui, maintenant, nous pouvons voir et vivre encore et encore la profondeur de l'amour que Jésus a eu pour nous. Cet amour profond, dépourvu d'égoïsme, rempli d'altruisme, nous devons le répandre. Mais répandre où? Vers qui? Vers toi qui es assis près de moi. Vers toi qui partage ma vie. Vers toi que Dieu a fait mon compagnon de route.
Il est formidable d'aimer. Qu'il est formidable, qu'il est formidable d'aimer, qu'il est formidable de tout donner pour aimer. Quand on n'a que ses mains à tendre ou à donner, quand on n'a que ses yeux pour rire ou pour pleurer, quand on n'a que sa voix pour crier et chanter, quand on n'a que sa vie et qu'on veut la donner. Qu'il est formidable d'aimer, qu'il est formidable.
Ainsi s'achève ce service protestant avec le pasteur Émile Lazare de l'église adventiste d'Aubervilliers et l'église adventiste de la place d'Italie à Paris. Merci à Viviane Noël et à Michel Mestre pour la réalisation et la prise de son de ce service protestant proposé par Michel Schaeffer pour la Fédération protestante de France. Vous pouvez retrouver cette émission sur les sites franceculture.fr ou protestant.org. Vous y retrouverez l'écoute ou le téléchargement du texte, mais si vous préférez recevoir ce texte par courrier, c'est possible en écrivant au service radio de la Fédération protestante de France au 47 rue de Clichy, 75 009 Paris. À suivre dans un instant le journal et puis Talmudique avec Marc-Alain Wacknin. Très bon dimanche à vous tous et joyeuse Pâques.
Quand il y a sur la route ce pas qu'on reconnaît, quand on regarde ensemble vers le même sommet, et quand on n'a que sa vie et qu'on veut la donner. Sa présence pour vivre et espérer, quand les chemins du risque s'appellent vérité, quand les quatre horizons conduisent vers la paix.